Alors, jusque-là, on a vu l'Esprit Saint qui nous est révélé dans l'Écriture, ce que l'Église a approfondi sur sa personnalité. On a vu son action dans l'Église, mais tout ça n'est possible que parce que l'Esprit Saint agit dans nos cœurs. Et donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est vraiment cette action de l'Esprit Saint en nous. Qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Et on va voir que ce qu'il fait, même s'il le fait comme à son habitude, délicatement, avec douceur, eh bien néanmoins, c'est une action importante. Et sans cette action, finalement, nous ne pourrions pas être des saints, nous ne pourrions pas vivre en amitié avec Dieu. Cette action, on peut la résumer d'un mot, c'est la grâce. Ce mot qu'on utilise dans notre vocabulaire assez facilement, tout est grâce, on demande des grâces. Mais fondamentalement, on va voir dans ce premier topo que la grâce, c'est l'Esprit Saint en lui-même et ce qu'il fait en nous, dans notre âme. Donc, mon premier enseignement, une présentation un peu générale de tout ce que l'Esprit Saint fait dans notre vie. Et puis ensuite, Sœur Gaëtane nous parlera plus spécifiquement des dons de l'Esprit Saint, ces 7 dons qui sont déjà énoncés par le prophète Isaïe. Donc, on aura une demi-heure vraiment pour les approfondir. Et puis ensuite, dans le deuxième forum, après la messe, on verra plus le lien entre l'Esprit Saint et la sainteté. Alors donc pour ce premier enseignement, pour approfondir cette action de l'Esprit Saint en nous, il faut, enfin on peut partir en tout cas de cette exhortation du pape Saint Léon le Grand qui disait: Chrétien, reconnais ta dignité, puisque tu participes maintenant à la nature divine. Ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Donc la dignité du chrétien, c'est de participer à la nature divine, c'est une expression qui se trouve déjà dans la deuxième lettre de Saint-Pierre. Et tout le Nouveau Testament, de l'Évangile à Saint Paul, Saint Pierre, etc., nous montre que cette divinisation de l'homme, cette participation de notre humanité à la nature divine, n'est possible que par l'action de l'Esprit Saint. Donc, dans une première partie, on va essayer simplement, pour poser la base, d'approfondir qu'est-ce que c'est que cette participation à la vie divine. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on verra comment l'Esprit Saint nous permet de participer à cette nature divine parce qu'il vient demeurer en nous. Donc ce sera la deuxième partie, la présence de la personne de l'Esprit Saint en nous. Et puis ensuite, on verra dans la troisième et la quatrième partie des conséquences concrètes, entre guillemets, parce que la grâce, on peut pas la toucher, mais de ce que fait l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint constitue notre personnalité spirituelle. Ce sera la troisième partie. Et puis, on verra ensuite le lien entre l'Esprit Saint et la prière. Alors d'abord, donc, devenir participant de la nature divine. C'est là le but de notre vie, en fait. De toute éternité, Dieu, qui est amour, a créé l'homme pour partager avec lui sa vie divine. À l'origine, l'homme et la femme furent créés déjà dans un état bon, dans un état de sainteté originelle, donc déjà dans une certaine communion avec Dieu, mais l'homme, comme on le sait, a choisi la désobéissance, c'est le péché originel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas laissé l'homme au pouvoir de la mort, mais qu'il veut le sauver, ce qu'il accomplit ultimement par la venue du Christ en notre chair, par sa mort et sa résurrection sur la croix, enfin par sa mort sur la croix et sa résurrection, et ensuite par l'envoi de l'Esprit Saint. Cet Esprit, longuement promis, doit achever l'œuvre de la sanctification des hommes en réunissant sous un seul chef, le Christ, ceux que le péché avait dispersés. C'est par lui, l'Esprit Saint, que l'homme purifié du péché peut alors devenir un seul être avec le Christ, comme Saint Paul le dit dans une lettre. De cette filiation divine, il s'ensuit que le but de notre vie sera d'imiter notre Seigneur, son enseignement pour le mettre en pratique, mais aussi ses actions qui deviennent un peu le modèle de nos actions. Saint Paul nous exhorte encore: Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Donc, le plan de Dieu, c'est vraiment que l'accomplissement de notre vie soit cette sainteté, cette imitation du Christ, au point d'avoir en nous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en notre Seigneur. Et c'est ainsi que, avec saint Paul, nous pourrons dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Donc, il ne s'agit pas simplement d'une sorte d'imitation extérieure. On a un modèle devant le miroir et puis il faut faire pareil que lui. Mais c'est une configuration intérieure de tout notre être au Christ. Jean-Paul II explique dans Veritatis Splendor « Être disciple de Jésus veut dire être rendu conforme à celui qui s'est fait serviteur jusqu'au don de lui-même sur la croix. Par la foi, le Christ habite dans le cœur du croyant, et ainsi le disciple est assimilé à son Seigneur et lui est configuré. C'est le fruit de la grâce, de la présence agissante de l'Esprit-Saint en nous. » Donc, il ne peut pas y avoir de sainteté sans cette configuration au Christ, mais cette configuration au Christ, nous dit Jean-Paul II, n'est possible que par la grâce, c'est-à-dire par la présence agissante de l'Esprit-Saint en nous. Et saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, « Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Donc le but de la mission de l'Esprit-Saint en nous, c'est de nous rendre capables d'être fils de Dieu, d'être configurés au Christ. Et c'est pour ça que saint Paul, plusieurs fois dans ses lettres, nous demande d'être dans le Christ. Le grec même est très fort, c'est « ein in » en latin. Donc vraiment, entre guillemets, de rentrer dans le Christ, d'être configuré à lui, d'être conformé à lui. Et donc cela est possible par le baptême et le don de l'Esprit-Saint réalisé au moment de ce sacrement. C'est alors que l'Esprit-Saint en personne nous est donné pour nous rendre participants de l'unique filiation divine. Donc voilà un peu pour le plan de Dieu qui veut faire de nous ses fils, des fils adoptifs, de par notre union à son unique fils qui est le Christ, et cela est possible parce que l'Esprit-Saint vient demeurer en nous. Alors on va voir maintenant qu'est-ce que c'est que cette grâce, qu'est-ce que c'est que cette présence de l'Esprit-Saint en nous. Donc Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Jean, cette filiation divine à laquelle nous sommes appelés est une vie nouvelle. Ça demande de naître de nouveau, comme il le dit à Nicodème, et de naître de l'eau et de l'Esprit, donc de recevoir le sacrement, le baptême d'eau, par lequel l'Esprit-Saint nous est donné et inaugure en nous une vie nouvelle. Pour ce qui nous concerne ici, on va s'arrêter surtout sur l'effet propre du baptême. Donc il y a le pardon des péchés, d'une part, mais aussi cette nouvelle naissance ou cette filiation divine. Et cette filiation divine, ça ne suppose pas seulement un don que Dieu ferait le moment du baptême à l'heure précise, etc. Mais c'est plus que ça. C'est la venue en nous de la troisième personne de la Trinité et par elle du Fils et du Père. C'est ce que la théologie appelle l'inhabitation de l'Esprit-Saint ou de la Trinité en nous. Donc inhabitation, ça veut dire habiter dans, demeurer. Alors, essayons de comprendre plus précisément ce grand mystère. De nombreux textes de l'Écriture attestent la réalité de cette présence. Ce n'est pas une image. On pense par exemple au terme à la fin de sa vie, juste avant de mourir sur la croix, Jésus annonce à ses apôtres qu'il leur enverra un autre paraclet. Il leur dit « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, et la gloire c'est un des symboles de l'Esprit-Saint, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. » Donc, juste avant d'accomplir sa Pâque, Jésus annonce qu'il enverra son Esprit à ceux qui croiront en lui, afin que, comme le Père et le Fils sont un dans l'Esprit, ainsi ceux qui auront part à son Esprit seront eux aussi un en Dieu. Donc voilà le grand plan de Dieu réalisé à travers l'envoi de l'Esprit-Saint qui doit venir demeurer en nous. La tradition va dans le même sens, par exemple saint Athanase qui est cité dans le catéchisme, « C'est par l'Esprit que nous avons part à Dieu, par la participation de l'Esprit, nous devenons participants de la nature divine. » C'est pourquoi ceux en qui habite l'Esprit sont divinisés. Et du côté du magistère, on peut citer Léon XIII, qui est le premier pape à parler explicitement de cette question dans un document magistériel. Dieu, par sa grâce, réside dans l'âme juste ainsi qu'en un temple, d'une façon très intime et spéciale. De là, ce lien d'amour qui unit étroitement l'âme à Dieu, plus qu'un ami ne peut l'être à son meilleur ami, et la fait jouir de lui avec une pleine suavité. Cette admirable union, appelée inhabitation, dont l'état bienheureux des habitants du ciel ne diffère que par la condition, est cependant produite très réellement par la présence de toute la Trinité. Nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure, est-il écrit dans l'évangile de saint Jean. Cette inhabitation est attribuée néanmoins d'une façon spéciale au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, selon ce que nous dit Léon XIII, est envoyé pour rendre possible cette présence en nous de toute la Trinité. Alors d'un côté, nous, on y est peut-être un peu habitué, ça peut nous sembler évident que Dieu veut entrer en relation, en communion avec l'homme, mais en fait, si on y réfléchit, ça ne va pas de soi, et c'est même le trait spécifique de la foi chrétienne par rapport à d'autres religions. Dieu, ce qui ne va pas de soi, c'est que Dieu est le seul saint, plénitude d'amour, de lumière, de vie. L'homme est infiniment différent, infiniment inférieur à Dieu. Donc, par lui-même, l'homme ne peut être en communion avec Dieu. C'est donc Dieu qui prend l'initiative et qui élève l'homme en lui donnant de le connaître et de l'aimer. Et récemment, le pape Léon XIV disait, en s'appuyant sur saint Augustin, « Nous ne sommes pas égaux à Dieu, mais Dieu lui-même nous rend semblables à lui dans son Fils. » Cette capacité donc de rentrer en communion avec Dieu n'est pas une simple concession que Dieu nous fait. Ça va beaucoup plus loin que le simple pardon des péchés. Ça demande une élévation de notre être pour que nous soyons capables d'être en relation avec Dieu comme un ami parle à son ami, comme un fils peut s'adresser à son père. Et pour citer encore le pape Léon XIV, Jésus-Christ transforme radicalement la relation de l'homme avec Dieu qui sera désormais une relation d'amitié. C'est pourquoi l'unique condition de la nouvelle alliance est l'amour. Et donc là encore, nous avons besoin de l'Esprit-Saint qui est l'amour pour pouvoir vivre cette relation avec Dieu. Donc cette communion avec Dieu ne sera possible que parce que lui-même se penche sur l'homme pour l'élever jusqu'à lui. Et étymologiquement, c'est justement ce que signifie le mot « grâce » en hébreu, « se pencher sur ». La grâce, nous dit le catéchisme, c'est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel « devenir enfant de Dieu ». Participant de la nature divine, de la vie éternelle. Et c'est là le sens de l'action de l'Esprit-Saint en nous. Cette élévation n'est pas accomplie de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et elle est parce que l'Esprit-Saint vient demeurer en nous par le baptême. Par conséquent, comme l'écrit Guillaume de Saint-Thierry, qui était un moine cistercien du XIe siècle, « L'homme est uni à Dieu par l'amour même qui unit le Père et le Fils ». Alors, il faut bien comprendre, cette divinisation dont parlent surtout les pères orientaux signifie participation à la vie divine, mais ça ne signifie pas que l'homme devienne Dieu, donc infaillible, sans péché, saint par le fait même, sans plus avoir à mener de combat, etc. Ça ne signifie pas non plus que l'Esprit-Saint prend le contrôle de notre vie et que nous n'avons plus à exercer nos facultés d'intelligence et de nos volontés, comme si on deviendrait des robots entre les mains de l'Esprit-Saint. La présence personnelle de l'Esprit-Saint en nous ne nous fait pas devenir une nouvelle personne de la Trinité, il n'y a toujours que trois personnes dans la Trinité, mais elle établit l'âme du juste dans une nouvelle relation avec les trois personnes de la Trinité. Notre nature humaine n'est donc pas changée, on est toujours des êtres humains, mais elle est élevée. Et donc, pour qu'il y ait vraiment cette communion, l'Esprit-Saint élève nos facultés pour nous rendre capables de connaître et aimer Dieu comme on connaît et aime un ami. Donc Dieu ne se substitue pas à nous, mais il donne à nos facultés de faire ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Et cela, donc, il le fait de l'intérieur, par l'Esprit-Saint, qui vient demeurer en nous comme en un temple. Alors, précisons encore que l'Esprit-Saint, comme on dit dans le Veni Creator, est le doux hôte de l'âme. Donc ce qu'il fait en nous et qu'on va détailler maintenant, il le fait de manière délicate, souvent sans rien d'extraordinaire, ce qui fait qu'on ne peut pas mesurer notre état de grâce, on ne peut pas le ressentir, l'expérimenter de manière sensible, et donc on ne peut pas se fier à nos sentiments pour savoir, pour essayer de mesurer l'action de l'Esprit-Saint en nous. On ne peut pas identifier ce que nous ressentons au plan spirituel à l'action ou non de l'Esprit-Saint. Parfois, il y a des grâces sensibles, mais ça reste du domaine de l'extraordinaire. La vie chrétienne habituelle est surtout dans l'effort pour être docile à cette action de l'Esprit-Saint, effort que nous ne faisons pas sans la grâce. Donc au sens fort, la grâce, c'est cette présence de l'Esprit-Saint en nous. Les théologiens vous diront c'est la grâce incréée, puisque l'Esprit-Saint est une personne divine, donc non créée. Mais de cette présence découlent des effets qui sont, j'allais dire, bien concrets, même si on ne peut pas les mesurer, mais qui, eux, sont créés. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est l'Esprit-Saint qui édifie notre personnalité spirituelle, notre être intérieur. Alors, c'est tout un processus qui va du pardon des péchés jusqu'à la glorification. Pour en rester à la phase terrestre, c'est d'abord l'Esprit-Saint qui opère en nous la conversion. Mais nous, on va surtout s'arrêter sur ce qu'il fait pour nous rendre capables d'être en communion avec Dieu. On va surtout voir trois aspects rapidement. Les vertus infuses et les dons de l'Esprit-Saint, la loi nouvelle qui est gravée en nos cœurs et les fruits de l'Esprit. Bien sûr, toute cette action, l'Esprit-Saint agit dans nos cœurs, mais il vient en nous par le baptême. Et cette présence, cette grâce sanctifiante, elle est développée par les sacrements. Donc même si l'Esprit-Saint peut agir librement en nous, il agit d'abord par les sacrements. Et donc tout ce qu'on va dire est possible que parce qu'on fréquente assidûment les sacrements. Alors d'abord, le lien entre l'Esprit-Saint, les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit. Cette élévation de notre nature pour la rendre capable d'être en communion avec Dieu se traduit par le perfectionnement de nos vertus. Les vertus, ce sont des dispositions stables à agir, à faire le bien, qui grandissent en proportion du bien que nous faisons. Pour nous rendre capables d'un agir surnaturellement bon, donc en relation avec Dieu, l'Esprit-Saint nous donne, on dit infuse, des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. On parle de vertus théologales parce que, à la différence des vertus morales, elles ont pour but d'orienter notre connaissance et notre volonté vers Dieu. Par elles, l'homme se trouve adapté à la relation avec Dieu en ce qu'il a de plus spécifique, sa rationalité, donc l'intelligence et la volonté. Mais la grâce de l'Esprit-Saint informe aussi de l'intérieur nos vertus morales. Alors certes, la prudence, la force, la tempérance, la justice sont des vertus qui appartiennent à la nature humaine, donc tous les hommes l'ont. Dans la perspective de la foi, le critère du bien moral reçoit un nouvel étalon, puisqu'il faut se conformer à la vie du Christ. Ce qui fait que, certes, le Christ assume tout ce qui est bon de la nature humaine, mais il l'apporte aussi à son accomplissement, lui fait faire un pas de plus, comme on verra d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui. Et donc, le critère qui nous permet de reconnaître le bien est beaucoup plus profond à la lumière de la vie du Seigneur. C'est pour ça que l'Écriture nous dit aussi que ces mêmes vertus morales, la prudence, la justice, la force, la tempérance, sont données par Dieu et donc concrètement par l'action de l'Esprit-Saint en nous à travers le don de la grâce sanctifiante. Donc, le don de l'Esprit-Saint illumine... ce perfectionnement des vertus trouve son accomplissement dans les dons de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint vient perfectionner notre intelligence, notre volonté à travers les vertus théologales, nos vertus morales pour nous rendre capables de modeler notre agir sur le Christ. Et le couronnement de ce perfectionnement, c'est les dons de l'Esprit-Saint. Sur la base du prophète Isaïe, la tradition en a retenu 7, l'intelligence, la sagesse, le conseil, la science, la piété, la force, la crainte. Et donc ce sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint. Donc je ne détaille pas plus puisqu'on les verra en détail juste après. Donc première action de l'Esprit-Saint qui nous donne les vertus par lesquelles nous allons pouvoir agir de manière à pouvoir être en relation, en communion avec Dieu. Et deuxième action de l'Esprit-Saint en nous, l'Esprit-Saint grave en nos cœurs la loi nouvelle de la charité. Saint Jean nous l'écrit, Dieu est amour. Dans la Trinité, l'Esprit-Saint est le lien d'amour qui unit les personnes divines. Donc la présence en nous de l'Esprit-Saint répand en nos cœurs cet amour divin par lequel nous allons devenir semblables à Dieu. La charité, aimée comme Dieu aime et nous aime, devient ainsi le moteur de nos actions, si du moins nous nous laissons guider par l'Esprit, comme dit saint Paul, « Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. » Donc, le chrétien, renouvelé par la grâce sanctifiante, donc par l'Esprit-Saint, sa loi d'action devient le nouveau commandement de l'amour. C'est cela la loi nouvelle qui distingue les membres du nouveau peuple de Dieu. Comme l'écrit saint Thomas, « La loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit-Saint donnée par la foi au Christ. » Alors, loin d'abolir les commandements, cette loi nouvelle, gravée en nos cœurs par l'Esprit, les porte à leur accomplissement. L'obligation de faire le bien ne se trouve plus dans une sorte de prescription juridique imposée de l'extérieur, mais c'est en se conformant à cette motion intérieure que celui qui vit de l'Esprit a la force de vivre selon ce que Dieu commande et qui nous est connu par les 10 commandements, les béatitudes et plus largement par l'enseignement moral de l'Église. Saint Augustin dira ainsi « La loi a donc été donnée pour que l'on demande la grâce. » Quand je prends conscience de tout ce qu'exige la vie chrétienne, je me dis tout seul, je ne peux pas y arriver, je suis porté à demander la grâce. La grâce a été donnée pour que l'on remplisse les obligations de la loi. Donc le Seigneur nous donne sa grâce qui nous donne la force pour vivre en conformité avec ses exigences. Mais la loi nouvelle va plus loin que d'indiquer simplement le bien à faire, que de nous faire connaître. Elle transforme le cœur même de l'homme, qui est la racine profonde de la moralité de nos actes. C'est ainsi que les oracles prophétiques sont accomplis. Par exemple, ce matin, au Lod, on a entendu le prophète Ézéchiel qui nous disait, nous parlait de, enfin, qui suppliait pour que nous puissions recevoir un cœur nouveau, que l'Esprit mettrait sa loi dans nos cœurs. Et c'est aussi ce que dit le prophète Jérémie, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Donc le don de l'Esprit Saint illumine notre intelligence pour faire le bien et nous entraîne vers ce bien. Donc le souffle de l'Esprit Saint, ainsi compris, doit être le guide de notre vie. Et c'est en nous laissant conduire par lui que nous pourrons vivre ce commandement de l'amour que le Seigneur nous a laissé au dernier soir de sa vie terrestre. Par conséquent, le fait de se laisser guider par l'Esprit nous oblige à mettre de côté les œuvres de mort, qui viennent les œuvres de la chair, comme dit saint Paul, qui elles conduisent à la damnation, qui feront que nous ne pourrons pas hériter du royaume de Dieu. Donc il y a une sorte de combat entre la loi de Dieu, la loi de l'Esprit, et la concupiscence, cette blessure de notre nature humaine qui est entraînée vers le mal. Mais l'Esprit Saint, de par la force qu'il nous donne, mais par la loi nouvelle qu'il vient graver en nos cœurs, nous entraîne, lui, vers le bien. Mais donc l'Esprit Saint ne supprime pas l'héritage du péché originel, cette concupiscence, mais il nous donne toute force, toute lumière pour choisir la vie, c'est-à-dire de nous soumettre à lui, l'Esprit qui est la vie, pour vivre en conformité avec le commandement de l'amour. Et puis dernière action, on va dire, de l'Esprit Saint pour constituer notre personnalité spirituelle, les fruits de l'Esprit. Plus l'âme est possédée par l'Esprit Saint, plus elle va pouvoir faire germer les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire c'est bien du ciel que l'Esprit nous donne de posséder dès maintenant et qui forme comme un avant-goût du paradis. La tradition en compte 12, telle que saint Paul les présente dans la lettre aux Galates, où il dit « Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. » En fait, on pourrait presque dire il n'y a qu'un seul fruit, c'est la charité, c'est au singulier dans la lettre de saint Paul. Mais et donc les 11 autres sont un peu comme des effets de l'amour en nous. Et donc c'est finalement ces fruits de l'esprit nous permettent d'irradier autour de nous cette bonne odeur, ce parfum du Christ. Ça nous donne d'être, on pourrait dire, des personnes céleste dans le sens habité par la grâce, et cela irradie autour de nous et met là où nous sommes un climat de paix, de joie, de patience, etc. Alors ça c'est, on vient de voir, l'Esprit Saint donc qui constitue notre personnalité spirituelle. Mais c'est pas la seule action de l'Esprit Saint. On pourrait dire c'est la base, c'est les fondements, mais ensuite, une fois que cette personnalité est constituée, elle agit. Et ce que je voudrais surtout souligner, c'est que l'Esprit Saint nous associe à son œuvre de sanctification. Il nous donne de collaborer avec lui. Non seulement il nous rend capable de participer à la vie divine, mais il nous rend toujours plus dociles à son action et il vient vivifier de l'intérieur toutes nos occupations. Alors, il le fait surtout de deux manières. Les grâces sacramentelles qui nous accompagnent tout au long de notre vie pour que cette vie de l'Esprit-Saint en nous puisse grandir. Donc, chaque sacrement a des conséquences spécifiques qui nous permettent de grandir en sainteté. Et puis aussi, en fonction du libre projet de Dieu sur chacun, nous recevons des grâces spéciales. Les charismes dont on a parlé hier, qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires, ils ont pour but de servir au bien de toute l'Église et de nous permettre à chacun d'apporter quelque chose à la vie de l'Église. Comme on disait, c'est les saints au final qui constituent, qui font l'Église, et ces charismes nous accompagnent sur ce chemin de sainteté. Et puis aussi, dans la mesure où notre chemin de sainteté nous conduit dans un état de vie particulier, ou alors à exercer des responsabilités particulières ou un service d'Église, l'Esprit-Saint, là encore, nous assiste de sa grâce pour bien les remplir. C'est ce qu'on appelle la grâce d'État. Dans tout ce que nous faisons, l'Esprit-Saint est à notre aide, si on a le cœur ouvert, pour nous aider et pour faire en sorte que nos activités, que ce soit le travail, la vie de famille, la prière, etc., que tout cela soit une occasion de sanctification. Alors l'Esprit-Saint donc nous accompagne dans tout ce que nous faisons, mais aussi il nous rend agréable à Dieu, capable de vivre en relation avec lui, mais aussi il nous rend capable de collaborer à l'œuvre du salut en faisant que toutes nos actions nous conduisent à la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle le mérite. L'Esprit-Saint, lorsqu'il agit en nous, donc lorsque ce que nous faisons est le fruit aussi de son œuvre en nous, eh bien, les œuvres que nous faisons sont agréables à Dieu, et Dieu n'est pas indifférent, n'est pas insensible à ce que nous faisons, et récompense le bien que nous faisons ainsi. Et la récompense ultime, c'est de nous ouvrir les portes du ciel. Donc par le mérite, on ne veut pas dire que c'est nous qui achetons le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu nous est donné par Dieu, mais il nous est donné d'une manière à ce que le bon Dieu nous permette de participer à cette récompense qu'il veut lui-même nous donner. Il est plus digne, plus conforme à notre dignité humaine de participer nous-mêmes à ce don que Dieu nous fait. Il y a plus de gloire à recevoir la vie éternelle en récompense de ses mérites, dit saint Thomas, que d'y parvenir sans aucun mérite. Et ce mérite, c'est donc l'Esprit-Saint, à travers la vie de la grâce, qui nous donne de pouvoir l'obtenir. Donc, être dans la grâce de l'Esprit-Saint est fondamental, parce que c'est lui qui constitue notre personnalité spirituelle, par laquelle on va être en relation avec Dieu, et c'est lui qui permet à nos actes de trouver grâce devant Dieu, et donc d'accéder au ciel. Alors, dernier point, l'Esprit-Saint et la prière. Dans la mesure où l'Esprit-Saint est l'artisan de notre sanctification, du déploiement en nous de la vie divine, il est aussi la source de notre prière, puisque c'est dans la prière que va se jouer notre relation filiale avec Dieu. Saint Paul nous le dit, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Donc le fond de la prière, c'est cette attitude filiale que nous avons envers Dieu, et elle n'est possible que parce que, en fait, c'est l'Esprit-Saint qui prie en nous et qui nous donne de participer à cette dimension filiale. Dans la mesure où notre prière sera saine de l'Esprit-Saint en nous, nous pouvons avoir confiance en son efficacité. La prière par excellence est cependant celle où nous demandons le don de l'Esprit, car Dieu n'a pas de meilleur don à offrir aux hommes que celui qui est le don par excellence, l'Esprit-Saint, et qui donc va faire toute cette œuvre en nous de notre divinisation, de notre participation à la vie divine. Alors, on a dit beaucoup de choses dans cet enseignement. Pour résumer, cet enseignement veut nous inviter à prendre conscience de la richesse de l'action de l'Esprit-Saint en nous et du fait qu'on ne peut pas s'en passer. La vie chrétienne est vraiment une vie spirituelle qui doit être vécue sous la motion de l'Esprit-Saint en nous. On peut donc admirer le plan de Dieu et son action qui est tout à la fois respectueuse de notre dignité, car Dieu ne nous sauve pas sans nous, et généreuse parce que Dieu a vraiment tout fait pour que nous puissions devenir ses fils et ses filles. Alors puissions-nous tous mieux réaliser le trésor que représente le fait d'être en état de grâce, préservons cet état de grâce, fortifions-le, et en même temps nous le portons dans un vase d'argile, alors demandons à la Vierge Marie qui est la pleine de grâce qu'elle nous fasse grandir dans une véritable docilité à l'Esprit-Saint pour nous rendre toujours plus semblables à son Fils pour la gloire du Père et la louange de sa grâce.